Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour, bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On fait le match, cinquième de la saison, comme chaque samedi, évidemment, pour le meilleur de l'expertise et du décryptage, à destination de tous les publics, avec respect, bienveillance, bonne humeur, rire, sourire, bien évidemment, avant d'en retrouver à 20h RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et l'intégralité de Rennes-Monaco. À 19h, quart d'heure par quart d'heure, la quatrième journée de Ligue 2, et depuis 17h, la Ligue 1, Lens-Bordeaux. Actuellement, ce sont les Lensois qui mènent face au Girondins de Bordeaux sur le score de 2-0. On joue depuis 70 minutes. Dans un instant, on prendra la direction du stade Félix Bollard. On fait le match avec un invité ce soir, Daniel Riolo, journaliste, éditorialiste chez nos confrères et néanmoins ami de RMC BFM, auteur d'un pamphlet, n'ayons pas peur des mots, qui a pour titre « Cher football français » et sous-titré « Les vérités que le football français refuse d'entendre ». 14,95 € aux éditions Hugo Sport. Cette émission est filmée sur RTL.fr et ça fait rire Daniel Riolo. Je montre le livre aux caméras car l'émission est filmée. Donc, bonsoir, bienvenue Daniel.
Bonsoir Christian, merci beaucoup de me recevoir.
À mes côtés, pour décortiquer les vérités de Daniel Riolo, Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir, bonsoir.
Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir,
bonsoir à tous.
Vos messages, évidemment, toujours très nombreux chaque samedi soir sur les réseaux sociaux, avec notamment le compte Twitter @RTLFoot ou RTL.fr via, et c'est possible désormais, la nouvelle application RTL. En trois clics, Baptiste Durieux, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Émission réalisée par Damien Béchoux. Bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir.
Vous écoutez RTL, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet après une page de publicité. Et oui, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Dominique Sévrac et donc Daniel Riolo. Paraît-il que j'ai mal montré le livre aux caméras de Gérard Van Der Gutt, donc je montre...
Mais le prix était-il bon,
14,95 €.
Ça va alors.
Cher football français, on va décortiquer ce livre, évidemment, Daniel. Il y a plein de choses très intéressantes. Le direct, tu connais ça, évidemment. Il y a un match à Bollard. On va retrouver Samuel Duhamel. 73 minutes, Samuel, bonsoir. Où en est-on entre Lens et les Girondins de Bordeaux?
Eh bien, toujours 2-0 pour Lens avec les buts de Ganago à la 46e et Kakuta à la 59e sur pénalty. Troisième but de la saison pour les deux hommes, les Bordelais qui évoluent depuis la 58e minute à 10 depuis l'expulsion de Paul Bayce. Alors cela fait 2-0 pour Lens, mais cela pourrait très bien faire 3-4 voire 5-0 tout simplement, puisque Benoît Costil a été exceptionnel en première période avec 3 arrêts de très grande classe face à Ganago et Sotoka, et puis a signalé également côté lensois l'entrée en jeu de Seko Fofana, le milieu de terrain ivoirien en provenance de l'Udinese, le plus gros transfert de l'histoire du Racing Club de Lens. 74 minutes, 2-0 pour Lens.
Match en fil rouge, bien évidemment, avec Samuel Duhamel et tout à l'heure, après 19h, la Ligue 2. Daniel Riolo. Alors, on fait le match avec le regretté Eugène Saccomanno. D'ailleurs, tu y as participé, hein. Tu as fait quelques émissions, on fait le match. Hein.
Absolument, et c'est un très très bon souvenir.
Livre super intéressant.
J'adorais aller au milieu de ceux que je considérais les anciens à l'époque, puisqu'ils étaient tous plus âgés que moi, plus expérimentés, et j'étais le petit dernier, et c'est Pascal Praud qui m'avait mis le pied à l'étrier pour participer à cette émission. Et effectivement, non seulement c'était bien de participer à l'émission, mais il y avait en plus derrière, je pense que t'es au courant, tu sais, Eugène aimait bien aller au resto avec les mecs qui avaient
restaurant italien dans le 17e arrondissement. Hein,
exactement.
Comment s'appelait ce restaurant-là?
La Sardaigna,
exactement, tout à fait.
Et j'adorais les écouter parler. J'étais pas si jeune que ça, mais par rapport à eux, bon, je faisais vraiment le petit gamin. Et j'y suis allé que 2-3 fois, mais c'est vraiment un super souvenir.
Et à l'époque, tu avais beaucoup de respect pour nos glorieux aînés. Peut-être que tu n'aurais pas effectivement...
Non, le respect pour les glorieux aînés, je l'ai toujours.
Ouais,
vraiment. Bah, je le dis dans le bouquin quand même. Même tous ceux que j'ai connus, de Jacques à un autre très important journaliste qui est passé ici, Guy Kedia, que j'ai eu la chance d'avoir comme red chef à Sport OFM.
Alors tu parlais de Jacques Vendroux peut-être, c'est ça?
Jacques Vendroux, bien sûr.
Et Guy Kedia qui a été effectivement chef du service des sports.
Exactement.
Bien sûr. Alors je le disais, ce livre est super intéressant, il est bien documenté, il y a beaucoup de mauvaise foi également. Ça tire à but? Hein?
Mauvaise foi, j'en sais rien, parce que pour moi, en tout cas, je le considère pas comme ça.
Alors, on va le saucissonner.
C'est rare, les mecs qui sont de mauvaise foi et qui disent, je suis de mauvaise foi.
Ouais.
Non, moi,
des avocats, ça peut arriver, des avocats, par exemple.
Les ?
Des avocats.
Ah ouais, des avocats.
Des avocats.
Mais moi, je suis pas avocat, moi.
Oui, bah oui. T'es plutôt procureur.
Plutôt, effectivement. Ouais. Ou alors, ça dépend. Si une cause. Ah si, je peux. Non, alors, je peux être avocat pour certains mecs dans le foot. Allez, je citais un truc banal parce qu'en plus, c'est cet après-midi, on a vu son équipe jouer. Pour Bielsa, je suis très souvent avocat.
Mmh. Mais il y en a beaucoup des avocats pour Bielsa, quand même. Globalement, c'est pas ce qui manque.
Tant mieux, il a un beau cabinet, effectivement. Ouais, c'est une belle expression.
Tout va bien à ce niveau-là. On essaye de le faire passer pour le super-héros qui serait mal aimé. Globalement, c'est plutôt politiquement correct.
Mais on va en parler.
Ouais, je sais pas.
N'ayez aucune inquiétude, simplement, tu le sais, Daniel, il y a un conducteur dans une émission. Donc,
ah bon
voilà. Donc, Bielsa, ça va passer.
On est obligé de respecter ça. À mon avis, ça va pas être facile aujourd'hui.
D'accord.
Tu fais comme tu veux.
Alors, c'est parce que moi, quand moi je suis invité, autant dans notre émission, il est vrai que souvent je ne respecte pas toujours le conducteur. Quand je suis invité, ne t'inquiète pas, je ne mets pas les pieds sur la table.
Bon, donc il y a plusieurs sujets. J'ai envie de dire qu'il y a quasiment un sujet toutes les deux pages. C'est-à-dire qu'avec deux pages, tu pourrais faire à chaque fois un bouquin. Alors, j'ai essayé de prendre ça avec nos amis dans l'ordre un peu chronologique du bouquin, ce sera plus simple. Et il y aura, à mon avis, 4 thèmes à évoquer. Après, il y aura plein de thématiques et puis ça partira peut-être en vrille un peu plus tard dans la soirée. Le désordre du football français consécutivement au confinement avec l'histoire du calendrier, la vie des uns et des autres, sache vraiment, il faut qu'on en parle tout de suite parce que ça a des applications évidemment sur ce qui se passe actuellement, sur la qualité du football, sur les résultats, etc., etc. Les joueurs, moi j'ai bien aimé également ce côté un peu évoqué sur les joueurs surcotés ou mal entourés. Et c'est effectivement par les temps qui courent un vrai dossier. Les dirigeants, les présidents, là il y a parfois un peu de mauvaise foi. J'y viendrai d'ailleurs. La mauvaise foi sur en fait tous ou quasiment tous sont incompétents en France. Quasiment tous. Bon, on en parlera.
Moi, je pense que dans la discussion, je vais quand même en sauver quelques-uns.
D'accord. Et les joueurs, justement, on reviendra sur les joueurs, sur la formation, sur le niveau de la Ligue 1. On reviendra également sur la manière de jouer. Est-ce qu'on aime bien, on préfère la manière ou le résultat? Ça, il y a beaucoup à dire. Et on reviendra donc au cas de l'ami Bielsa. Le désordre du foot français depuis le confinement. Alors, selon toi, les dirigeants ont mis le bazar alors qu'ils auraient pu visiblement faire ce que les dirigeants européens ont fait, c'est-à-dire d'attendre et de ne pas se précipiter, même si c'est facile à dire maintenant, et même Daniel Riolo, si à l'époque, on ne savait pas jusqu'où cette saloperie de coronavirus aurait pu nous emmener.
Eh bien, parce qu'on ne savait pas où ça pourrait nous emmener, je pense que la bonne idée, c'était justement d'attendre un petit peu. Quand on ne sait pas comment va évoluer un problème, le mieux, c'est pas tout de suite, de façon radicale, d'essayer de trouver une solution et d'attendre un peu. Et comme en plus, en matière de football, je trouve que c'est pas une bêtise en France de regarder ce que font un peu les autres, parce que souvent on est un peu en retard, donc c'est quand même plutôt bien d'essayer de voir ce que font les autres, on peut aussi les copier. C'était peut-être intelligent de regarder ce qui se passait en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Nous, on a précipité les choses, et on les a précipitées parce que, je pense, l'ensemble de notre football n'arrive jamais à être d'accord, à se mettre d'accord, à avoir le sens du collectif, pour prendre une expression basique du sport qui nous réunit.
Mais ça va plus loin, Daniel, parce que c'est l'effet miroir, c'est le football, mais c'est aussi Roland-Garros. Regarde ce qui se passe, puisque Roland-Garros va se jouer que maintenant et dans les conditions qu'on connaît. Le Tour de France repoussé, c'est-à-dire que c'est la culture du sport en France.
Exactement.
Que tu mets en avant.
Exactement, on a toujours honte d'aimer le sport en France, on a honte de considérer que c'est quelque chose d'important. Évidemment, même si elle est revenue sur ses propos le lendemain ou le surlendemain, la ministre des Sports, quand elle évacue et quand elle balaye d'un revers de main la place du sport dans la société au moment justement de la crise sanitaire, en disant le sport, je résume, mais en gros le sport passe au second plan où ça n'est pas une priorité.
Exactement la même chose. Hein.
Pardon ?
C'est pas exactement la même chose de dire le sport n'est pas au second plan ou le sport n'est pas une priorité.
Le sport ne sera pas prioritaire dans le déconfinement.
Ça a été très très largement interprété comme le sport n'est pas suffisamment noble pour qu'on se penche sur la question et qu'on essaye de le sauver et qu'en plus on le considère comme un secteur économique qui faille sauver. Je pense qu'à ce moment-là, il y a aussi un contexte politique où on a énormément entendu Jean-Michel Aulas. Est-ce qu'on a autant entendu les patrons de théâtre, les réalisateurs de cinéma?
On les a entendus à certains moments. C'est ça la grande différence, c'est que moi je trouve que dans les autres métiers, les corporations se sont montrées plus unies, où on avait le sentiment que les mecs disaient, bon bah dans le cinéma on aimerait bien que, dans la restauration on aimerait bien que, nous c'était plein de mecs qui ont envie de choses totalement différentes.
Mais donc justement, est-ce que c'est pas le foot français qui s'est tué tout seul? Parce qu'en gros, pour résumer, si à l'Élysée et si à Matignon, il y a ces sorties-là, parce que c'était les guidés, cette sortie.
Mais bien sûr.
C'est une façon de dire, il y en a marre. Jean-Michel Aulas, tous les jours, on l'entend, on le voit chez tous les médias. Et nous, on essaye de faire passer un message par rapport à une situation sanitaire. Et on a des mecs qui tapent du poing sur la table en disant, vous nous emmerdez, nous, on veut reprendre le football, on veut reprendre deux morts, reprendre 25 000 avec 50 000.
Ce que tu veux dire, en fait, c'est que, certes, la ministre a eu cette sortie qu'on peut juger malheureuse ou qu'on a interprétée de façon diverse, mais ce que tu veux dire, c'est que finalement, face à elle, elle n'a pas trouvé une voie assez forte pour penser autrement. Si c'est ça que tu veux dire, alors je te suis
c'est même
à 100%.
Ça a peut-être provoqué cette réaction.
Vu le poids économique du football, juste une chose, c'est que j'ose espérer que les politiques français ne prennent pas des décisions juste par rapport à la présence médiatique de Jean-Michel Aulas. Parce qu'après, ça mériterait du temps.
Mais on en a du temps.
Franchement, pour moi, si vous voulez aller sur ce terrain-là, les principaux responsables, ce sont les hommes et les femmes politiques. Il y a deux choses dans ces histoires. Il y a les dirigeants du football français et il y a les hommes et les femmes politiques. C'est quand même très, très différent, les responsabilités de chacun, à mes yeux. Et je veux juste, parce que ce que dit Daniel, c'est la voix qui est portée par tous, franchement. On a été nul, on aurait dû s'arrêter, blablabla. Ok. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Moi, je me souviens juste de l'époque.
On n'aurait pas dû s'arrêter de cette façon, c'est ça que tu veux dire.
Pour toi, j'en sais rien, Daniel, parce que j'ai pas écouté ce que tu disais à l'époque. Mais je me souviens à l'époque du confinement où nous, on faisait des émissions à la chaîne L'Équipe. Quasiment personne ne s'est levé contre cette décision. Il faut se rappeler qu'il y avait des morts chaque jour.
Moi, dès le premier jour, j'ai dit que c'était une absurdité et on me traitait d'assassin.
Je n'en doute pas.
D'assassin, c'était évidemment exagéré, mais replacé dans le contexte tel que le décrit effectivement Sébastien Tarrago.
Je ne criais pas au scandale et je pense qu'il y avait d'autres priorités.
Tu travailles dans un média qui est très important. Le lendemain de l'intervention de Roxana Maricciani à nous, j'ai adoré ton journal.
Oui.
Parce qu'il a dit, les deux pages, où il y a eu comme une révolte de... Vous êtes quand même le quotidien et le seul en France. Je me suis dit, putain, il était temps. Il était temps que je lise ça, qu'on arrête de prendre le sport pour quelque chose qui ne compte pas, où l'économie n'a pas le droit d'être mise en avant, où on n'a pas le droit de dire que c'est important, où les gens dans ce pays n'ont pas le droit de dire qu'ils aiment le foot, qu'ils aiment les autres sports, où on oublie toujours de souligner que le foot fait vivre tous les autres sports à travers la taxe Buffet.
Mais personne ne disait le contraire, Daniel.
On n'avait pas le droit de dire qu'on était traités. T'as beau dire que c'était exagéré, je t'assure que les messages que je recevais, et les gens à l'antenne, et même des consultants qui me disaient mais ce que tu dis est insensé. À un certain moment, j'ai même eu peur. En plus, je faisais des émissions de chez moi le soir et j'étais là, je me dis, des fois j'avais mal au crâne à la fin de l'émission, je dis, est-ce que tu vas trop loin? Est-ce que tu peux dire ça? Ça m'arrive rarement penser que je vais trop loin. Mais là, j'étais mal à l'aise.
Le simple fait de t'interroger sur cet aspect des choses et de la présenter comme ça, effectivement, cette chose-là, c'est dire qu'il y avait problème et qu'on pouvait entendre également l'autre version des gens qui disaient, attention, il y a des dizaines et des dizaines de morts par jour.
Mais pourquoi ne pas attendre?
Mais Daniel,
pourquoi ne pas attendre? Regardez la façon dont la dictature de l'émotion et la domination de l'émotion sur la raison.
Est-ce que les politiques sont responsables de cela? Parce qu'on va venir sur le cas Jean-Michel Aulas.
Les politiques, c'est comme dit Philippe, et il a raison là-dessus. Face aux politiques, il n'y a pas eu de voix. Et j'en reviens à ce que tu disais, Dumontet, par rapport au théâtre, est intervenu. Et de la même façon que je reviens au restaurateur. Et il y a eu un élément majeur. Le gouvernement ne savait pas quoi faire. Et quand ils ont appelé, quand ils ont voulu savoir ce que pensait le football, ils se sont retrouvés non seulement face à des voix complètement discordantes, mais pire, ils se sont retrouvés face à des voix qui n'ont pas osé s'affirmer. Ils se sont retrouvés face au syndicat des joueurs qui a fait n'importe quoi avec sa tribune dans le monde. Ils se sont retrouvés face à un président de la Fédé qui ne s'est pas soucié une seconde de l'avenir de nos clubs et de l'économie de nos clubs. Et pire que tout, il s'est retrouvé face au sélectionneur de l'équipe de France qui a dit que c'était une bonne idée. Et encore aujourd'hui, il n'ose pas dire qu'il s'est trompé, alors que tout le monde sait qu'il s'est trompé.
Alors justement,
et ça, c'est très grave.
Dominique Sérac.
Justement, parlons du fond, Daniel. Qu'est-ce qui te fait dire, donc, on est le dernier match avant le confinement, c'est le PSG Dortmund du 13 mars. On est déconfiné le 11 mai. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, en quoi t'es sûr qu'il fallait reprendre? En quoi les championnats qu'on repris ont eu raison? Et en quoi la France, le Gibraltar, le Luxembourg, les Pays-Bas,
La Belgique,
en quoi eux, ce sont des idiots.
Mais pourquoi et qu'est-ce qui te fait, penser que c'était ça pourrait être une bonne idée.
J'en sais rien.
Bah parce que tu prives élément. J'imagine constitutif de leur culture. Pourquoi tu les prives de ça?
Je pense qu'on saura dans un an, pas avant un an, avec le nombre de blessures, avec le vainqueur de l'Euro 2021, avec pas mal de recul, on saura dans un an ce qu'il fallait faire.
Pour ce qui est des blessés, c'est chez nous en ce moment que ça coince très fort.
On va y venir.
La fin de ta réponse, Dominique,
tu peux pas m'affirmer ou me démontrer que c'était une mauvaise idée d'arrêter.
Te démontrer que c'était pas une bonne idée, mais il y a quand même un élément très fort selon moi. Tout simplement, et c'est à ça que je me réfère sans arrêt quand je parle de culture du sport et de culture du foot, tu as privé les gens de leur plaisir.
18h46 minutes, une page
de pub.
Et ça,
je trouve que ne serait-ce que ça, c'est grave.
Toutes les études disaient que ça ne leur manquait pas.
Les matchs à huis clos, c'est pas du plaisir.
Top, merci. 18h46, page de publicité, Félix Bollaert, et on parlera également, effectivement, du comportement des dirigeants, des représentants des joueurs, enfin bref, des fameuses familles du football. 18h47, la pub.
RTL, on refait le...
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La suite, on fait le match dans un instant avec, pour inviter Daniel Riolo, auteur de Cher Football Français, sous-titre Les vérités que le football français refuse d'entendre aux éditions Hugo Sport, en compagnie également dans ce studio de Philippe Sanfourche. Bonsoir. Dominique Sévrac,
oui,
bonsoir.
Bonsoir.
Sébastien Tarago, bonsoir.
Bien, bonsoir.
Et Samuel Duhamel, Félix Bollaert, quasiment le temps additionnel, Samuel. Et
effectivement, la 90e minute ici à Bollaert, toujours 2-0 pour les Lensois, la démonstration sans Eor qui se poursuit. Ganago à la 46e, Kakuta à la 59e et encore une fois un excellent match important de Benoît Costil, les Lensois qui se dirigent vers une troisième victoire consécutive.
Merci Samuel, fin du temps additionnel, on valide le résultat donc cette victoire probable de Lens face à Bordeaux. Alors on a parlé du volet politique, du comportement des politiques.
Est-ce que je peux revenir sur ce qu'a dit Sébastien juste avant, parce que moi je trouvais que c'était intéressant la réponse qui était donnée à travers les sondages. Tu as raison, moi je trouve à ce moment-là, je trouvais que c'était assez marquant. Tu dis, finalement les gens exprimaient à travers le sondage que ça ne leur manquait pas. Quand tu me dis, Dominique, toi, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'était bonne ou mauvaise décision? Je t'ai dit, on leur prive d'un plaisir. Alors moi je pense que d'abord, vu le contexte et ce qu'on disait à ce moment-là, et la pression qui était mise sur ce foot qu'on faisait passer pour une activité totalement secondaire, je pense qu'ils n'osaient même pas dire les gens à quel point ils avaient envie que le foot revienne.
Là on y est.
Exactement.
Parce que là, on soupçonne les gens de répondre quelque chose qu'ils ne pensent pas.
Alors justement.
Alors que c'est même pas.
Alors justement, c'était le 1-2 que j'attendais parce que tu as peut-être raison.
Je ne sais pas.
Ça
moi,
ne leur
si
manquait pas. Et j'exagère peut-être sur le volet psychologique. Mais alors, si c'est vrai que ça ne leur manquait pas, et ben alors c'est encore plus grave. Et dans ce cas-là, et ben alors il faut rien espérer de notre football. Parce que si tu n'as pas la passion quand t'es dirigeant, quand t'es joueur, parce qu'il y a énormément de joueurs même de notre Ligue 1, vous voulez même pas reprendre.
Peut-être que des gens ont d'autres priorités. Peut-être que des gens ont d'autres priorités à ce moment-là.
C'est exactement ça, à un moment donné.
Mais quand ton père il est en train de mourir dans un EHPAD, peut-être que t'as pas envie de voir des matchs de foot à huis clos. C'est pas la dictature de l'émotion.
À ce moment-là, on était au mois de juin.
Moi, franchement, moi le foot, ça t'a manqué le foot?
Ben, moi, c'est ma passion, ça m'a manqué.
Dans ton bouquin, Daniel, tu précises bien, tu l'écris d'ailleurs, tu stigmatises tous ceux qui ont privilégié la santé avant le football. Dans ce cas-là,
il faut pas espérer de notre football. On arrête de faire les émissions, on paye pas 1 milliard pour diffuser un championnat en bois. Il faut dire la vérité. Si personne n'est passionné, il faut pas pleurer quand on a des résultats pourris en Coupe d'Europe. Il faut pas pleurer sur nos dirigeants qui sont nuls. Il faut pas pleurer sur nos joueurs qui ne rêvent qu'une chose, qui est de partir à 20 ans jouer à l'étranger.
Je hiérarchise. C'est-à-dire que moi, je sais pas si on parlait de la Syrie, là je sais qu'on est sur un débat un peu sérieux. Si on parle de foot, je sais que c'est un peu moins sérieux. Donc, quand on parle de la Syrie,
je
vais faire attention, je vais peut-être pas y aller,
mais c'est sérieux. Moi, j'ai toujours considéré que c'était sérieux.
Ah, mais c'est sérieux, bah
alors, non,
mais
ça, le problème de notre football, aussi. Il est peut-être là, alors. Mais c'est qu'on considère pas que c'est sérieux. Non, alors, c'est, une économie, c'est une économie à 900 millions qui n'est pas sérieuse. Chacun s'en donc, on prend les gens pour des cons, alors, en fait.
Mais non, on peut aborder les choses sérieusement.
Sébastien Terrari.
On peut aborder les choses sérieusement et aborder le football comme on traiterait avec le même sérieux la Syrie, mais effectivement, comme le dit Dominique, hiérarchiser. C'est tout. Il s'agit juste de cela.
Mais vous défendez, que ça n'empêche vous pas défendez l'idée que c'était juste d'arrêter le championnat.
Mais je défends pas, moi, j'en sais rien.
Moi. Non, mais quel est votre avis?
Non,
quel est votre avis? Par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on sait, ce qu'on fait les autres.
Est-ce que
c'était
étatique.
Une bonne idée d'arrêter?
Parce qu'on a oublié de dire comme que c'est Macron qui a décidé d'arrêter le championnat.
Non, Macron a arrêté parce que personne en face de lui a dit que c'était pas une bonne idée d'arrêter.
Ça montre le poids politique du football français.
Donc tu vas dans mon sens.
Il y a un volet politique, s'il vous plaît.
L'incompétence de
je voudrais y venir. L'incompétence des dirigeants, on en parlera même sûrement dans un autre, tout à l'heure, dans une autre
la
partie de l'émission. Mais ça, c'est important. Est-ce que les politiques n'ont pas joué également de la division des présidents, des dirigeants, des familles du football français?
Ils ne savaient pas quoi faire, les politiques. Ils ne savaient pas quoi faire. Au dernier moment, le dernier week-end, comment il s'appelle le président? Il téléphone à Deschamps. Et Deschamps, pris par l'émotion, et puis en plus Deschamps n'en a absolument rien à cirer de notre Ligue 1,
on en est sûr.
Oui, si, il l'a.
Bien sûr.
Mais et comme souvent dans ces cas-là,
Et nos présidents, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils se disent, parce que moi je parle avec des présidents en ce moment-là, ils me disent « Moi je pense que Macron va convaincre Merkel qu'il faut arrêter. » Là franchement, j'ai explosé de rire au téléphone. Je dis « Mais attendez, mais vous êtes sérieux là ?» Oui, déjà, il a convaincu Conte en Italie et il va convaincre Merkel. Voilà ce que disent nos présidents à ce moment-là. Et le seul qui se réveille, c'est Jean-Michel Aulas.
Alors justement, là, tu es en train de réhabiliter en direct sur RTL Jean-Michel Aulas d'une certaine façon. Il a été critiqué pique-pendre le début de ses interventions pendant la saison blanche.
Mais le début était critiquable. Ouais.
Bon, ben oui, mais ça n'a pas aidé justement à l'unité du football.
Ça, c'est sûr.
S'il y avait une véritable unité dès le départ du football français pour monter au front et pour dire aux politiques on est présent, les choses se seraient peut-être passées différemment.
Mais Christian, vous ne pouvez pas demander aux gens qui n'ont pas des intérêts convergents de monter au front
comment
ensemble.
Comment ont fait les autres, Sébastien? Dès le premier instant, il a voulu, en Italie, ça a discuté deux semaines, tout le monde s'est mis d'accord.
Mais parce que l'organisation du football espagnol n'est pas forcément celle du football français, mais vous savez très bien moment où il s'agit d'arrêter ou de continuer, les dirigeants du football français n'ont pas tous les mêmes intérêts. Mais certains ont touché 92% de leurs droits télé, certains c'est 50%, donc déjà, c'est pas la même chose. Et certains sont sauvés. On sauve leur place en Ligue 1 ou en Ligue 2, je pense au Paris FC.
Et certains ont gardé leur place en Ligue des Champions, ont milité pour l'arrêt.
Mais bien sûr, donc les intérêts ne sont pas convergents.
Et tu dis qu'il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, mais est-ce que tu sais pourquoi tous les championnats ont repris? Uniquement pour des raisons d'argent, une des raisons mercantiles.
Mais bien sûr.
Pour finir les contrats.
Mais est-ce que tu sais pourquoi tu le dis comme si c'était un problème?
Mais je dis pas que c'est sale.
Faire de l'argent. Évidemment qu'ils ont repris, comme les restaurants voulaient rouvrir pour des questions d'argent. Tout le monde voulait reprendre pour l'argent.
Mais c'est pas sale. Mais est-ce que tu sais pourquoi la France a arrêté? Pour des raisons mercantiles aussi. Parce que c'était le seul pays qui avait un contrat à un milliard qui l'attendait.
C'est pire que ça.
Oui,
c'est pire que ça. C'est parce qu'il y a eu un prêt garanti par l'État. Alors qu'on reproche sans arrêt aux footeux d'être indécents dans les salaires qu'ils touchent, mais t'avais envie de leur dire. Mais pourquoi vous rechignez à reprendre? Tout le monde reprend, la caissière elle va reprendre. Elle a même permis à ce que tu fasses tes courses pendant le confinement quand la situation était ultra critique.
Oui, mais
toi tu veux pas aller t'entraîner?
Philippe Sanfourche.
La caissière elle a pas besoin d'être testée tous les 3 jours pour faire les déplacements aux 4 coins de la France.
Les tests étaient payés par les clubs, ils avaient qu'à utiliser l'argent pour les faire les tests comme les Allemands.
Ça passait pas politiquement parlant ça. Je crois que c'est Dominique, Parisien, vous aviez sorti que Kiyou avait son plan avec les 50 000 tests.
Bien sûr,
il avait tout prévu. Autour d'une façon d'aborder la question du sanitaire, la question du principe de précaution. Parfois, il est outrancier et moi, il me gonfle ce principe de précaution. Mais sauf qu'on est dans ce pays-là. Et le foot, il rentre dans cette logique-là.
Quand je discutais avec les médecins,
le docteur Oran et Pierre Roland, quand ils donnent le protocole médical et sanitaire, ils le donnent en disant voilà, vous nous l'avez demandé, on vous le donne, mais si ça ne tenait qu'à nous. Pour nous, c'est pas tenable.
Allez, Sébastien,
quand on est au mois d'avril, on manque de tests. D'accord? Et si le football avait voulu reprendre, il aurait fallu que les joueurs soient testés tous les 3 jours. Et ça aurait été un scandale parce que les gens ne l'auraient pas accepté.
Mais bien sûr,
les gens ne l'auraient pas accepté.
Mais non, en septembre, on a encore des problèmes de tests.
Stop. Le déconfinement et donc le calendrier est stoppé, la saison blanche, tout ça, c'est donc dans le livre, dans le pamphlet de Daniel Riello aux éditions Hugo Sport. Hein. Cher
14,95 €.
Je n'en parle que dans les premières pages. Hein. Je ne fais pas le livre que sur ça. Quand
non,
même, hein.
Pas que sur le déconfinement, pas sur le calendrier, mais si tu mêles ça avec la culture sportive,
ah, oui,
effectivement,
ce que ça
c'est important.
Société,
parce que peut-être
oui.
qu'en Allemagne, peut-être qu'en Espagne, peut-être qu'en Italie, avec une culture sportive différente,
non, mais
peut-être
parce que
ça a été apprendre.
Le problème de base, finalement, c'est.
On est obligé de s'arrêter. Bollard, c'est terminé. Lens Bordeaux, Samuel Duhamel.
Exactement, ça vient de se terminer, Christian. Victoire logique du RC Lens, 2-1, avec le but de Ganago, la 46e, Kakuta, la 59e sur pénalty. Les Bordelais qui ont réduit le score en toute fin de match à la 94e minute. Le petit promu sans erreur qui sera sur le podium de la Ligue 1 ce soir. Ça faisait 13 ans que ce n'était pas arrivé pour Lens. Donc très belle victoire pour Lens ici, 2-1.
Merci Samuel Duhamel en direct du stade Félix Bollard de Lens à partir de 20h. RTL Foot, l'intégralité de Rennes-Monaco. Les réactions de ce match, bien évidemment, à suivre. Présentation Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Derrière les informations de 19h, on reviendra donc sur un autre thème évoqué par Daniel Riello, les joueurs surcotés ou les joueurs mal entourés. On parlera également des dirigeants, des présidents, tous des incompétents, et puis de la qualité, de la formation du jeu de la Ligue 1. Il faut bien parler également du jeu. La publicité, s'il vous plaît, et les informations de 19h.
RTL, on refait le...
Il est 19h. Les informations en haut de Vernuccio, bonsoir.
Bonsoir à tous. Une personne portée disparue, un camion emporté par les eaux et un cours d'eau, le Gardon, qui dépasse les 6 mètres en 2 heures. L'épisode orageux a été particulièrement violent sur le département du Gard, toujours en vigilance rouge. Les pluies vont reprendre en soirée. Restez chez vous, demande la préfecture. 400 personnes ont été évacuées des villages de Saint-Jean-du-Gard et de Valrogue. La vigilance reste en vigueur jusqu'à 3 heures du matin. 5 autres départements, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Lozère et les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange aux orages. On attend les derniers chiffres de Santé publique France ce soir, mais c'est une réalité. L'épidémie de Covid repart. Plus de 3000 personnes hospitalisées en une semaine. 13 215 nouveaux cas hier. En Ile-de-France, l'Agence régionale de santé réactive le plan blanc de niveau 1 qui permet d'obtenir des renforts en personnel. Déjà 20% des lits de réanimation sont occupés en ce moment par des malades du coronavirus. Conséquence de nouvelles restrictions imposées un peu partout en France. Toulouse interdit la consommation d'alcool dès 13h sur la voie publique et la vente après 20h. Le préfet d'Indre-et-Loire interdit de son côté les soirées dansantes. En Ile-de-France, pas d'interdiction, mais les réunions privées de plus de 10 personnes sont fortement déconseillées. À l'étranger, la colère toujours au Bélarus où des centaines de personnes ont été interpellées au cours d'une manifestation. Une marche de femmes organisée contre le président Loukachenko. La police a rapidement bloqué le défilé à Minsk, la capitale. Et puis aux États-Unis, Donald Trump promet la nomination d'un nouveau juge sans délai après la disparition de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, icône des démocrates et décédée la nuit dernière. Le Tour de France et ce coup de tonnerre sur la 20e étape au sommet de la planche des belles filles. Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il repousse Primoz Roglic, ancien leader, à une minute au classement général. Et puis en rugby, Clermont accueille le Racing 92 en quart de finale de la Coupe d'Europe. Le coup d'envoi a été donné il y a 15 minutes. La compétition reprend enfin pour la première fois depuis le mois de mars, Guillaume Frixon.
Oui, effectivement, c'est reparti depuis 17 minutes et on joue une drôle de saison, une drôle de Coupe d'Europe, puisque vous l'avez dit la dernière fois, c'était au mois de mars et là on attaque les phases finales, les quarts de finale pour ce choc franco-français entre Clermont et le Racing. Et pour l'instant, eh ben, les Clermontois balbutient leur rugby, là, même s'ils sont à 5 mètres de ligne des Parisiens. Mais pour l'instant, ce sont bien les Racingmen qui mènent 11-0 grâce à un essai d'entrée par Louis Dupichot à la deuxième minute et grâce au pied ensuite de Iribarren. 11-0 donc pour les Racingmen sur la pelouse des Clermontois qui là sont en train de camper dans les 22 mètres des Racing Men. Mais pour l'instant, ce sont donc bien les visiteurs qui mènent au score devant 5000 personnes. La jauge a été réduite. Vous le savez, Clermont a joué devant 10 000 personnes il y a 15 jours. Là, c'est devant 5000. Et les Clermontois sont menés au score sur leur terrain pour ce quart de finale. 0 à 11 pour le Racing.
Merci à vous, Guillaume Frixon. La météo, on le rappelle, 5 départements du Sud en vigilance orange aux orages. Un 6e, le Gard, toujours en vigilance rouge. Jusque demain matin, 3 heures. Demain, le ciel restera à couvert et orageux sur quasiment tout le sud du pays. Des éclaircies attendues au nord de la Seine. Côté température, comptez de 10 à 21 degrés le matin jusqu'à 29 l'après-midi. Et puis les courses, demain à Vincennes, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 12, le 6, le 8, le 13, le 4, l'As, le 7 et sa dernière minute, le 6, Soldio ZL. Voilà pourquoi j'ai rappé.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Sébastien Tarrago, Dominique Sévrac, Philippe Sansfourche et notre invité du soir qui nous fait l'amitié de nous rendre visite, notre confrère Daniel Riolo, auteur de Cher Football Français. Le prix, on le rappelle, 14,95 €. Mais allez-y, c'est un bouquin, c'est un pamphlet, c'est un point de vue. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais il y a des choses qui obligent à réfléchir et qui font réagir. Donc rien que pour cela, eh bien, ça vaut le coup d'avoir ce livre dans sa bibliothèque. On a parlé du désordre du foot français. Provoqué par le confinement, provoqué par les familles du football français désunies, provoqué également peut-être par un excès de rapidité dans la prise d'exécution, même si on en a débattu de la part du personnel politique. On va revenir maintenant un peu plus sur les choses du terrain, Daniel. Y a un aspect de ce livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est... Mais que t'as pas forcément d'ailleurs développé pendant des pages et des pages, mais je voulais qu'on s'y arrête, c'est des joueurs surcotés. Les joueurs surcotés et mal entourés.
Les joueurs surcotés, t'entends par là les joueurs qu'on aime
dire faire, qu'ils ont du potentiel voilà.
Même c'est plus simple, c'est même la Ligue des Talents.
Bon, tu vises qui ?
La Ligue des Talents.
Ah oui, alors là, tu vises carrément le championnat de France.
Bah, la Ligue des Talents. Alors, je vais te raconter une anecdote. Je crois que je la raconte d'ailleurs dans le bouquin. Le slogan date de c'est notre post Coupe du Monde et Didier Quillot, DG de la Ligue, patron du football français. Mois d'août, par là, j'étais rentré, il me dit...
Il t'invite à une pré-présentation.
Voilà, il me dit, tu veux pas venir ? Enfin, pré-présentation, on était deux dans le bureau.
Mais il voulait que tu réagisses.
Voilà, et il me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Ligue des talents, machin, tout. Je dis, Ligue des talents, mais... Enfin, ok, bah, si ça marche, après, moi, je suis pas expert en marketing, hein, donc si ça prend, je lui dis tant mieux et tout, mais il faut pas qu'on regarde de plus près les mecs qui viennent d'être champions du monde. Parce que si c'est la Ligue 1 qui a construit... Si tu m'expliques que c'est la Ligue 1 qui a construit les mecs qui viennent d'être champions du monde, si ça passe d'un point de vue marketing, c'est bien, mais c'est un beau foutage de gueule. Mmh. Parce que l'équipe de France qui est championne du monde, c'est pas une ligue, elle est pas venue de la Ligue des Talents, de la Ligue 1. Nous, c'est pas tellement ce genre de joueurs-là qu'on fabrique et qui restent en Ligue 1. Dès qu'ils ont l'âge
d'intégrer des équipes... Les joueurs de piètre qualité, voire des bourrins. Tu parles de joueurs comme cela qui sont des bourrins.
Ben, notre Ligue 1 est plutôt spécialiste de ce genre de joueurs-là. On les voit tous les week-ends sur le terrain.
Page 53.
Après, ceux qui sont amenés à devenir meilleurs, de toute façon, partent de plus en plus tôt et s'aguerrissent, mûrissent et surtout progressent et apprennent le haut niveau, l'exigence et le travail à l'étranger. Ça, c'est un phénomène, parce qu'on me dit souvent Bosman et tout. À une époque, les mecs, quand même, jouaient un peu en Ligue 1. Et puis partait à l'étranger. Aujourd'hui, on a de plus en plus tôt le désir chez le joueur de partir très très vite à l'étranger, de ne même plus fouler les pelouses de Ligue 1. En fait, pour faire simple, je cite un seul exemple. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une seule exception. C'est Karim Benzema. C'est le seul qui, sur les 20 dernières années, a un vrai passé de Ligue 1 avec Lyon, 150 matchs. Il a joué en Ligue des Champions avec Lyon.
Il y en aura bientôt un deuxième, c'est Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, c'est vraiment très différent. C'est une exception. D'abord, il ne joue pas en France, il joue au PSG.
Bah, il a déjà fait deux ans à Monaco, et c'est là il en est à sa troisième saison à Paris. Ça fait déjà 5 saisons de Ligue 1, c'est correct. Non mais attends, alors, là je relève quand
déjà
même.
Je redis donc le, pour il moi il joue pas en France,
il joue au PSG.
Il joue au PSG déjà.
Alors, ouais. Le PSG joue dans quel championnat?
Dans un championnat parallèle, selon moi, qui n'est pas la Ligue 1. D'accord. Ils jouent dans leur championnat à eux, en attendant que les matchs de Ligue des Champions.
Ils se battent eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai vu que Lens les avait battus. C'était oui, eux, ouais. Ou c'était.
On va pas s'arrêter sur cet épiphénomène qui fait qu'en ce début de saison, le PSG, à cause de plein de raisons, n'est pas prêt à disputer des matchs de Ligue 1. Et Mbappé pourrait. Effectivement, peut-être être la deuxième exception, mais reconnaît quand même que s'il n'y en a que deux en 20 ans, ça va pas faire beaucoup quand même. Et on sait tous que s'il n'y avait pas eu le PSG, il serait parti très très vite à l'étranger, à 18 ans même pas.
Mais Lloris a été formé en France.
Lloris en gardien de but.
Bah, il a oui, non, mais d'accord.
Ah bah mince. Après. Les gardiens, ouais, bah. Le PSG, ça attends. Compte pas, les gardiens de but, ça compte pas.
Envoyez la liste.
Varane, non.
Il est parti à 18 ans en Espagne.
Et il a joué en Ligue 1, Varane. Non,
mais c'est un joueur. Je parle de la formation.
Ah, c'est encore autre chose.
Attention. La formation, ça ne veut rien dire, la formation. Si tu apprends le haut niveau. Attends, Christian, si tu apprends le haut niveau à l'étranger, dans un club où tu arrives, ou dans un club où tu arrives et tu passes 3 ans sur le banc en regardant jouer Ramos et Pep, je veux bien. Ça si tu me dis que c'est la France qui lui a appris le haut niveau, là on va pas être d'accord.
Pour Pogba, de l'expérience vécue dans un championnat étranger.
Prenons le 11 qui a été champion du monde.
Mais regarde,
Attends,
je vais vous donner. Lloris, on est d'accord. Lloris a été formé. Pavard, d'accord.
Ouais. Pavard n'est pas un joueur français.
Umtiti déjà, ça commence.
Umtiti, ok.
Non, mais Pavard est un joueur français.
Non, c'est pas un joueur français, Pavard. Il a été limite chassé.
Pourquoi
l'outre?
Moi, ce que je. Moi, je partage.
On termine l'équipe de France.
Vas-y. Mais l'équipe de France, ça suffit pas. Il faut prendre les 20.
Non, les 23, c'est
des. Mais toi, si Tolisso, par exemple, tu prends Tolisso. Si tu comptes pas Tolisso, il a un impact à la Coupe du Monde 2018.
Blaise Matuidi, Blaise Matuidi a appris le football au PSG avec Carlo Ancelotti qui lui a changé sa vie.
Giroud.
Bah oui, mais c'est pas des joueurs français, c'est ces gens-là.
On s'en sent pas.
Giroud.
Mais non.
Non, mais c'est Giroud.
Giroud, il est champion de France.
Tu vas en compter 4, Maxi. C'est ce que je fais, je fais le décompte.
En fait, sur
Griezmann. Pogba, qui on a encore? Pas tous, quoi. Enfin, Lucas Hernandez.
En fait, Daniel, donc Giroud, il compte pas, Matuidi, il compte pas.
En fait, le problème, c'est que t'as une grille de lecture et tu veux tout faire rentrer dedans. En fait, elle s'applique à tous les sujets. Quel que soit le sujet, le confinement, ça a été du pain béni pour toi, parce que là, ça a pu démontrer comme ils ont fait n'importe quoi.
Ah, bah, j'y peux quelque chose, moi, s'ils m'ont rendu service.
Mais non, mais ils t'ont rendu service, parce que.
Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Dominique? Donc, les résultats en Coupe d'Europe, c'est à cause de moi aussi?
T'es un idéologue. T'as une grille de lecture et t'essayes de tout faire rentrer dedans.
Je vois pas ce que je fais rentrer dedans, en fait.
Blaise Matuidi n'est pas un joueur français.
Sébastien, on parle de quel genre de joueur? Tu parles d'un grand joueur de foot, là?
Est-ce que Deschamps demande à tous les joueurs de partir à l'étranger? Ce qu'il veut, c'est que ils jouent à la Ligue des Champions. Voilà, ça c'est sa grille de lecture. Si c'est au Paris Saint-Germain, ça lui convient parfaitement. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas la France. Donc on s'en sort pas.
Sébastien, tu peux. Alors c'est moi qui suis de mauvaise foi quand je dis que le PSG est pas un club français.
Mais non, mais il joue en France. À un moment, tu peux pas. C'est comme quand tu parles des résultats des clubs français cette année. En l'occurrence, cette année, il y en a deux en demi-finale.
Donc ça compte quand ça arrive une fois tous les 25 ans.
Mais non, mais en fait,
une première fois dans l'histoire.
Daniel, laisse-moi juste dire.
Mais moi, je m'intéresse aux tendances.
Laisse-moi juste.
Je m'intéresse pas à l'épiphénomène.
Laisse-moi juste te dire une chose avec beaucoup de respect. Moi, je partage certains de tes points de vue. Notamment sur la Ligue des Talents, et je le dis depuis très longtemps, puisque moi je pense qu'on est la Suisse en football.
Bon bah
le seul problème, Daniel, c'est que tu es dans l'outrance permanente.
Et donc,
on te dit que Blaise Matuidi a été en Ligue 1. Et ben non, c'est pas un joueur français. Giroud, c'est pas un joueur français, et c'est surtout des buts, on s'en sort pas.
Blaise Matuidi, pour moi, quand il arrive au PSG, déjà qu'il n'a pas beaucoup amélioré ses pieds, mais il a les pieds carrés. Carlo Ancelotti et le PSG lui apportent une exigence qui lui permet de devenir un joueur de haut niveau. Oui ou non?
Mais
oui ou non?
Il joue en France?
Oui
ou
non?
Il joue en France?
Mais je m'en fous, c'est pas
ton propos. Est-ce qu'Olivier Giroud
est un joueur qui est issu des centres de formation français? Oui ou non?
Mais attends, t'es sérieux?
Non, c'est un parcours atypique.
Ça compte pas non plus. Donc mais le gars, il a été à Grenoble, il a été en centre de formation. Non, mais Olivier Giroud, il est en centre de formation.
Mais tout le monde le chasse.
Grenoble.
On n'en veut pas. Olivier Giroud, il est formé à Grenoble.
Alors je sais pourquoi.
Tu dis que c'est un joueur qui ne pourra même pas jouer en Ligue 2.
Je sais que.
Mais Platini s'est fait rejeter de Metz.
Il est pas français, Bazdarevic. Mais en tout cas, il a été formé à Grenoble.
à Grenoble. Je sais mais que tu ne sais peut-être pas où c'est à part pour faire du ski, mais en tout cas Grenoble, c'est un club français, certes de pas très haut niveau. Et à un moment, il va à Tours, je crois, et puis il après il va à Montpellier et il a un parcours en France et il devient un joueur de haut niveau.
En fait, tu n'entends pas ce que disent les joueurs. Les joueurs disent tous. On apprend le haut niveau à l'étranger, on n'apprend pas le haut niveau chez nous.
Bon, mais ça c'est autre chose.
Le football c'est une
réalité. Tu mélanges. Si tu veux me faire dire que le championnat de France est nul, je
le dis. Et ben alors si tu le dis, alors pourquoi tu te bats?
Est-ce que je peux reprendre la main s'il vous plaît, messieurs, à 19h14 minutes. Merci s'il vous plaît.
Tu as tout dit.
Damien, publicité, ensuite un quart d'heure de jeu, le championnat de France de Ligue 2. Philippe Sanfour, je veux répondre à Daniel Riolo et vos messages également car c'est une émission interactive sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
On refait
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Et le débat continue apparemment, enfin même pas apparemment pendant la publicité, mais on va d'abord saluer Serge Peuillot qui nous coordonne les résultats du championnat de France de Ligue 2. Oui, la Ligue 2 a du talent également, Serge Peuillot.
Exactement, bonsoir à tous. Bonsoir. Et on est à Grenoble où a été formé Olivier Giroud. Voilà.
Alors le score, les scores plutôt des matchs.
Un seul score d'ouvert à Sochaux, c'est Rodez qui mène à Sochaux 1-0, un but de Boissier. Sur tous les autres matchs, Grenoble-Ajaccio, Le Havre-Niort, Pau-Guingamp, Caen-Chambly, Paris-FC-Nancy, Dunkerque-Valenciennes et Châteauroux-Amiens, 0-0. Cet après-midi, Clermont et Toulouse avaient fait match nul, un but partout.
Et on se retrouve à 19h30, Serge, les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux pour réagir à ce début dont on fait le match depuis 18h30 sur les différents thèmes évoqués par Daniel Riolo dans son livre Cher Football Français, Baptiste.
Ouais, beaucoup de messages sur cette Ligue des Talents, messieurs. Paul qui nous dit la Ligue des Talents déchue ou Ligue des Talents partie, pourquoi pas, oui. Antoine qui nous dit je viens d'ici, mais surtout d'ailleurs, voilà la phrase qui caractérise les joueurs de l'équipe de France. Message de Xavier également, la Ligue 1 fait des cadeaux à ses voisins européens, des cadeaux parfois à 80 millions d'euros comme Nicolas Pépé, certes, mais on est le centre de formation de l'Europe, message de Ryan aussi également, à la rigueur, devenir un top player en France et partir ensuite, pourquoi pas aujourd'hui, avant même de signer des contrats pro ou de marquer plus de 5 buts en pro, les jeunes partent, c'est ça le plus dramatique.
Et vous continuez de nous rejoindre évidemment sur le compte @RTLFoot ou sur l'application RTL ou sur le site internet RTL.fr, l'émission est filmée. Philippe Sanfour, je voulais donc répondre à Daniel Riolo sur
Non, pas spécialement répondre, je voulais justement revenir sur toute une partie du bouquin que moi je trouve très intéressante, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je suis entièrement d'accord avec ce qui est développé. Et c'est notamment, et on peut partir de cette histoire de Ligue des Talents, c'est ce constat qu'on peut faire que le Paris Saint-Germain, version Qatar, qui est arrivé maintenant il y a 11 ans, est censé être une locomotive pour le football français. 2011, était censé être une locomotive. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, on s'aperçoit que le niveau du championnat, non seulement il n'a pas augmenté, mais il a plutôt eu tendance à régresser. Globalement, tous nos clubs français... se prennent des bananes un peu partout en Coupe d'Europe.
Attends, laisse développer. Ibrahimovic, Neymar, chacun son tour. Attends, il termine sa démonstration.
Ça peut baisser. Et effectivement, tu as un gap, notamment technique, entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes qui... C'est même plus un fossé, c'est abyssal. Et quand tu regardes n'importe quel match de milieu de tableau de Liga, moi j'ai toujours tendance à dire que tu peux prendre toute la ligne de défense d'une équipe de Liga, elle peut jouer au milieu de terrain, voire même peut-être être attaquant.
Alors là, je ne crois pas.
Finalement, je suis très content parce que c'est souvent moi à qui on dit t'exagères, ou Sébastien m'a dit il y a deux secondes t'es dans l'outrance. Mais ce que vient de dire Philippe, non seulement je suis d'accord, mais ça me semble encore plus fort que ce que je dis. Et Sébastien, qui me contredit tout en disant que la France, c'est même pas le championnat suisse, il va encore plus loin que moi. Mais donc, merci beaucoup.
Moi, je constate juste que le Paris Saint-Germain est un club français. Et que Mathuidi, c'est un joueur qui est né en France, que Giroud en France et tout.
C'est un club français, le Paris Saint-Germain.
Il joue en France. Attends, juste 30 secondes, après, je lâcherai la balle. Mais c'est-à-dire qu'à un moment. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, oui, c'est l'outrance et c'est la caricature. Parce que, à l'étranger, Liverpool, ça appartient aux Anglais? Non. Non. C'est américain.
C'est pas ça le problème.
Le Milan AC, il appartient à qui?
Non, mais tu te trompes.
Et je peux vous faire une liste des 15 plus grands. Supposés plus grands clubs européens qui ne sont pas.
C'est très intéressant ce que tu dis.
Qui n'appartiennent pas à des gens qui sont soit anglais, soit italiens, soit espagnols. En Espagne, c'est un peu différent.
C'est pas ça du tout le problème. C'est intéressant ce que tu dis. Liverpool. Alors, d'abord, évacuons Milan immédiatement. Milan, c'est un gros problème. Milan, quand tu sais ce qu'est ce club et l'histoire qu'a ce club, À partir du moment où le fonds Elliott est venu foutre le nez dedans et la façon dont ils l'ont géré, c'est exactement ce que je reproche et ce qui est en train de se passer chez nous et ce qui est en train de tuer énormément de nos clubs. C'est quand tu enlèves l'ancrage culturel, l'attache culturelle.
Liverpool, c'est un autre sujet encore.
Liverpool a eu énormément de problèmes avant que Klopp arrive et toutes les interviews de Klopp, qu'est-ce qu'il dit ? Il a raccroché ce club à sa culture profonde. Il a à nouveau, j'allais dire, re-raconté l'histoire de Liverpool aussi bien aux joueurs qui venaient, même quand ils sont étrangers. C'est ça qui fait que tu progresses. Moi, en fait,
quelque part... C'est encore un autre sujet.
Quelque part, le... Non mais tous les sujets se tiennent quelque part. Sébastien.
Mais à chaque fois que t'es pris, à chaque fois, je te le dis vraiment avec sympathie, à chaque fois que t'es pris au piège dans une de tes démonstrations, et ben en fait tu rebondis sur autre chose. La culture, moi je suis d'accord avec toi. Il faut de la culture.
En fait, tu me mets dans un piège,
mais t'es
d'accord avec moi.
Mais non. Là, c'est de la malhonnêteté ce que tu dis, Daniel. Et il retourne la tête dans ces cas-là. Quand il est pris au piège, il change.
Je retourne la tête vers toi.
Mais Daniel, mais quand tu m'expliques que les mecs sont pas sont pas formés en France, c'est pas possible en fait.
Non, ça, du c'est
coup,
pas ça que je dis.
Du coup, ça évapore toute crédibilité au reste de ton propos qui est parfois très bon.
Je vais te donner une image pour que tu comprennes ce que je veux dire sur la formation. Aujourd'hui, on est chaque année premier ou deuxième exportateur de joueurs. Ça dépend d'année, une année sur l'autre avec le Brésil. On est donc une sorte de centre de formation de l'Europe. On est d'accord jusque-là ?
Bon, je suis assez d'accord.
Très bien.
Il y a des nuances, mais je suis assez d'accord.
On est en fait une sorte de fabrique à joueurs standard, comme la Chine pourrait fabriquer des machines à laver. Tu te souviens Tu te souviens de la pub du mec Tropicana qui arrivait dans le champ des oranges là ? Bon, je sais pas si tu te souviens. Bon, bref, il arrivait, il disait, il y avait devant lui des champs d'orangers énormes. Il disait, oh, ils sont magnifiques les oranges. Je crois que c'était en Floride, Vermeer.
Voilà. Tu reprends toujours le même exemple quand tu interviens là-dessus. Hein,
bah, c'est parce que je trouve parlant. Je l'aime bien.
Les oranges sont dans le.
Et donc le mec lui dit, donc nous, en fait, on a les champs d'orangers. Les mecs viennent. Est-ce que tu crois que simplement avec les oranges, tu fais un bon joueur ? Non, parce qu'en fait, après, t'as l'Américain qui vient et qui dit, moi je les cueille, moi je les presse.
Et je bois du jus d'orange.
Moi je les mets en bouteille. Et moi j'en fais un bon jus d'orange.
Bon.
Nous, en fait, on a juste les plantes. Avec les oranges. Et ce que font les autres, c'est en tirer la substance. C'est comme Upamecano qui dit quand il arrive en équipe de France la semaine dernière, j'ai tout appris à Leipzig.
Mais c'est normal, il est parti à 16 ans.
Et mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus comme ça.
Ils partent pourquoi ? Parce que l'argent, c'est tout.
Mais souvent,
ce qu'on leur propose à tous ces gosses.
Tu peux revenir dans l'histoire.
Kouassi qui joue au PSG, il s'en va.
Sébastien Tarago et ensuite Dominique Sebra.
Parce que Sébastien sort Kouassi, il a parfaitement raison.
Daniel.
Moi, j'aimerais savoir, Daniel, d'où tu parles ? T'es un penseur, t'es un analyste du football, t'es un observateur. Moi, je t'ai connu il y a 10-15 ans au Parc des Princes, mais je ne te vois plus au Parc des Princes. Je ne te vois pas au Stade de France quand l'équipe de France joue. T'es sans doute pris par tes activités médiatiques, mais je ne te vois plus sur les terrains. T'étais pas au Final 8 à Lisbonne.
Ah bah non, mais
tu n'es pas confronté au réel. Et moi, je pense qu'un journaliste, pour parler des choses...
C'est un peu facile, ça.
Il a raison de faire cette remarque.
Avec des gens qui ne vont jamais sur des terrains, mais c'est deux sortes de journalisme, mais c'est pas une critique.
Non.
J'aime que les gens sachent d'où on parle. Daniel, il va plus sur les terrains, mais peut-être qu'il passe sa vie avec des footballeurs, des agents, des dirigeants.
Tu as raison. Je pense que je passe mon temps à parler avec des agents. Pour ce qui est du terrain, je pense que j'ai dû faire le tour au moment, il y a 7 ans maintenant, de Rakai Football Club, de tout ce qui est centre de formation pour savoir comment ça se passait. Les présidents, évidemment, c'est facile de leur parler. Tu dois faire comme moi, tu dois avoir un téléphone, donc tu leur parles. Donc en fait, après le terrain, j'y suis très longtemps allé. Maintenant, il y a un phénomène que tu dois connaître, c'est les plateaux télé. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus y aller. Maintenant, pour la Coupe d'Europe, cette année, on est beaucoup allé sur le terrain. Avec RMC, on avait les droits, donc on a pu y aller. Mais tu sais bien comment c'est. Un coup, t'as les droits, tu vas sur le terrain. Un coup, tu les as plus, tu vas plus sur le terrain. Et surtout quand après, on te demande de rester en plateau, tu restes sur le plateau. C'est comme l'éditorialiste politique, tu sais. Est-ce qu'il va, au bout d'un certain temps dans sa carrière, toujours au cul de l'Assemblée nationale pour poser des questions ? Pas toujours.
Mais la plupart du temps,
en fait, il parle avec les mecs en permanence.
Non, mais c'est pas le problème.
Mais
tu peux avoir une connaissance du football, et tout le monde a une connaissance du football à son niveau, fonction des relations qu'il a, et sans aller obligatoirement sur un terrain de football. Je sais de quoi je parle parce que j'y vais beaucoup moins.
Je pense que si tu y allais.
Et c'est pas parce que tu y allais pour aller faire un match de football.
Il n'y a pas de supériorité.
Non, non, non. quand tu vas.
Je pense en revanche, il faut y être allé. Il faut en avoir bouffé, ça oui.
Oui, bien sûr. Bien mais sûr. La vérité, c'est pas là que tu as tes informations. C'est pas là que tu as ton ressenti.
Je pense qu'il faut se taper des confs de Deschamps. Il faut se taper des confs de Turel. Là, on est taper des confs de Méjacquet. Il faut se taper des confs de Roger Le Maire.
On est d'accord.
Le gros problème à l'heure actuelle, c'est que les confs, bientôt, on va tous se les faire par Zoom.
Tout est formaté.
C'est une autre petite mort de notre métier.
Philippe Sansfourche. Vous voulez intervenir parce que moi, il y a
non. En fait, non. Et les confs qui sont réglés par l'attaché de presse qui empêche de poser des questions.
Ouais, ça, c'est
je
ne
sais plus
autre...
si ça sert à grand chose d'aller aux confs parce que moi, j'ai connu celle au Parc des Princes. Je ne sais pas si tu y étais, mais je pense qu'on s'y croisait où on avait le droit de poser les questions qu'on voulait. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc, il vaut mieux y avoir été quand on s'est croisé à l'époque qu'aujourd'hui.
C'est pas en zone mixte quand tu vois passer les joueurs.
C'est pas là que t'as les infos.
Quand il y avait crise au Parc des Princes, au PSG, sous l'air Borrelli, quand tu étais dans le parking parce que les radios avaient la possibilité.
Il fallait y aller.
On avait une place de parking.
C'est donc le réel.
Et tu attendais
c'est
le Parc des Princes dans le parking. Tu attendais que les dirigeants et les joueurs
partent. Tu vas finir en prison.
Mais là, tu les avais les informations. Vous les avez plus les informations maintenant. Attendant en zone mixte,
si.
C'est
alors,
du pipeau
mais
ça.
Si, parce que tu rencontres un mec,
je vais te dire
tu vois,
que
déjà
j'ai...
tu vois le regard de Verratti quand il sort, tu vois après une victoire, après une défaite, comment il est, le regard il va te raconter un truc, tu vas croiser un agent, il va te dire, tu sais quoi, là Tourelle il vient d'insulter Neymar dans le vestiaire, si t'es pas là, t'as pas l'info.
Mais tu les croises pas et les ben, agents zone mixte, mais et Verratti,
dans le parc,
en fait
dans le
moi
parc,
j'ai le chance, c'est le mec après il m'appelle pour me le dire.
Bon, Philippe Sansfourche.
Finalement j'ai les deux, hein, donc il n'y a pas de débat. Non mais pour revenir sur le sujet de fond et sur l'histoire du championnat, parce que ce qui est intéressant aussi dans le bouquin de Daniel, c'est tout ce qu'il explique sur le manque d'ambition sportive, de culture sportive des dirigeants du foot français, qui pensent qu'il y a une chose, en fait, c'est à boutiquer la fin de l'année pour que ça passe dans les comptes de la DNCG et que globalement, le seul moyen d'y arriver, c'est de refaire trois joueurs et que donc, en fait, ils n'ont plus que deux mots en tête, ils se lèvent le matin, c'est trading et data. Alors moi, j'ai tel joueur, il fait tel truc, il faut que je le propose à un tel. Ouais. Et si tu prends un milliard, si demain, il y a 2 milliards pour un média pro ou un autre, eh ben ils trouveront le moyen d'augmenter les mecs qui étaient pas bons et de travailler toujours avec les mêmes agents qui vont leur proposer les mêmes joueurs et de faire les mêmes affaires mais de les faire deux fois plus cher.
Je me fais l'avocat du diable, ça vous choque ça?
Bah, ça me choque parce que
c'est
le monde
d'aujourd'hui.
Non, mais il y a un manque de compétences dans beaucoup de clubs qui pourraient travailler
mais
autrement.
Le sport,
certains
font.
Voilà, le sport n'est plus central.
La logique,
le football était un sport. Le football, on parlait de jeu et maintenant on parle du football comme étant un spectacle.
Monaco est champion de France.
C'est grâce à du foot. Malheureusement, c'est partout.
C'est grâce à du foot.
Pas qu'en France.
Mais non, il n'y a pas qu'en France.
Christian, quand chez Monaco est champion de France, c'est grâce à du foot. C'est une super équipe de foot avec un bon entraîneur, avec des super joueurs. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ça? Ils l'ont dilapidé.
Bah, ils l'ont dilapidé parce que en fait, ça arrive d'un point de vue l'aventure monégasque d'un point de vue du sport, elle arrive par hasard n'est pas la bonne expression. Elle arrive parce qu'à ce moment-là et dans l'histoire du foot, on en a plein. Tu sais, des générations qui à un moment donné matchent bien avec un coach et ils arrivent à faire une bonne aventure en Coupe d'Europe et en l'occurrence en championnat puisqu'ils ont même été champions. Mais ça n'est pas inscrit dans le projet. Parce que le projet, c'est pas celui-là. Et le problème de la plupart de nos clubs aujourd'hui, c'est comme le dit Philippe, c'est effectivement de reposer sur deux piliers qui sont d'un côté les droits télé, de l'autre le trading. Alors Sébastien va dire, c'est partout pareil. Ah. Et il a pas tort.
Ah oui.
Il a pas tort.
T'as dit ça ?
Parce que effectivement, il y a énormément de clubs aujourd'hui. Et c'est pour ça que peut-être que nous, on est en tête dans la dévaluation de notre championnat et dans ce qu'on veut en faire sportivement. Et ailleurs, ça existe aussi. Même Milan a failli tomber là-dedans. Quand tu connais l'histoire de Milan, qui est un peu supérieure à tous nos clubs français, c'est abominable de voir Milan tomber dans ce travers-là. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, j'en arrive à quelque chose qui, pour moi, est une grande souffrance parce que j'ai combattu cette idée. Mais je suis sûr qu'on va y arriver.
La Ligue des Champions, c'est parce que fermée.
C'est la Ligue semi-fermée. Parce qu'en fait, dans tous les championnats, on va se retrouver avec des clubs qui font pour la plupart du trading et qui reposent sur ce principe économique. Et on va compter sur les doigts d'une main quelles sont les équipes qui ont le projet sportif dont tu parlais tout à l'heure.
Stop, 19h28.
C'est ça le vrai problème du football actuel.
La publicité, un point sur la Ligue 2, vos messages sur les réseaux sociaux. J'aurais voulu qu'on parle quand même de ce qui s'est passé cette semaine. C'est aussi l'actualité. Alors, évidemment, c'est pas dans ton bouquin, l'actualité PSG Marseille, mais je voudrais également qu'on parle du débat. Qu'est-ce qu'on préfère privilégier, la manière ou le résultat? Donc, on parlera de l'équipe de France 98, on parlera de Bielsa, et ça va nous emmener jusqu'à 20h.
2018 aussi,
à 20h. À 20h, ce serait RTL Foot. 2018.
Ah, on peut, oui.
On peut aussi. Publicité.
RTL, on refait. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
19h30, on fait le match avec Sébastien Tarrago, Dominique Sévrac, Philippe Sansfourche et Daniel Riolo, auteur de Cher Football Français. C'est une voix que vous connaissez bien. Elle est sur RTL ce soir. Merci à toi, Daniel. On va parler de la manière ou du résultat dans un instant de Bielsa, de PSG et de Marseille, mais aussi un peu de Ligue 2. Serge Peillot, le point après une demi-heure de jeu.
Oui, eh bien ici au Stade des Alpes, Grenoble mène devant l'AC Ajaccio 1-0, un but de Jesse Bonnet. Rodez mène à Sochaux 1-0, un but de Boissier. Sur toutes les autres rencontres, 0-0, Le Havre-Niort, Pau-Guingamp, Caen-Chambly, Paris FC Nancy, Dunkerque-Valenciennes et Châteauroux-Amiens. Cet après-midi, Clermont et Toulouse ont fait match nul un but partout.
Merci Serge, on se retrouve vers 19h52-53 au moment de la mi-temps. Les réseaux sociaux, émission 100% interactive, filmée sur le site rtl.fr, l'application en trois clics également, et donc le compte notamment, @rtlfoot. Baptiste Durieux.
Oui, beaucoup de messages sur le manque d'ambition des clubs français. Simon qui nous dit, avec de l'ambition et du beau jeu, on peut gagner beaucoup plus que les 3 points, nous dit Simon. Et message de Corentin. Aujourd'hui, les projets sportifs se résument à faire des plus-values. Les présidents des clubs sont des traders, sont des financiers. L'identité se perd et les supporters ne peuvent même plus s'attacher à leur pays.
Ça, c'est un très beau thème, ça.
RTL, on refait le match.
Quel thème ? La culture, les supporters ?
Et l'identité, que moi je résume par cette phrase, c'est l'histoire que tu racontes à tes gens, à ceux qui viennent te voir au stade. Aujourd'hui, quelle est l'histoire que raconte Bordeaux, enfin les dirigeants bordelais aux supporters bordelais ? C'est une vraie question. Quelle est l'histoire que racontent les mecs qui dirigent Monaco aux supporters monégasques ? Et tu peux décliner dans pas mal de clubs aujourd'hui. C'est une question qu'on peut également poser à Lille. Mais j'avais aimé un soir, Gérard Lopez était venu dans l'émission. On peut penser ce qu'on veut du personnage et de sa méthode. Et effectivement, là, pour le coup, lui, c'est vraiment trading. Le mec, à peine, il prend 10 millions, il le vend direct. Mais il avait dit, puisque je sais et que j'assume cette partie-là de ma gestion, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire aux supporters, ne vous attachez pas aux joueurs parce qu'effectivement, ils vont partir très, très vite. Mais je vais demander à Galtier d'être attractif, de proposer du jeu qui va emballer les gens qui vont venir au stade. Je ne sais pas s'il y arrivera ou pas. Toujours est-il que...
Pas mal de com' ça, Daniel.
Mais
quand tu vois les matchs de Ligue des Champions, notamment.
Peut-être. Je te trouve un petit peu dur parce que en Ligue des Champions...
Bétonné. Ni plus ni moins.
Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. En Ligue des Champions, Lille l'année dernière...
Il a bétonné son milieu, il a bétonné la défense.
L'année dernière, moi j'ai
trouvé... Il y a eu beaucoup de com', honnêtement. Autour de Galtier, il y a eu beaucoup de com'.
Je te trouve très sévère parce que...
Mais ils savent faire.
On avance.
Je te trouve très sévère parce qu'en Ligue des Champions, Lille l'année dernière, je les ai trouvés justement assez... ils tentaient de jouer, d'être ambitieux. Après, ils ont pris des tartes par tout le monde.
Ça, c'est autre chose.
Mais il n'empêche que moi, j'avais trouvé pas mal d'audace dans ce qu'ils ont tenté de faire.
Une observation sur la culture des supporters. Tu donnes, par exemple, Lille, Monaco, Bordeaux. Pourquoi pas ? Ce sont ou des épiphénomènes. Monaco, c'est bon.
À Marseille, ville de foot s'il en est, les supporters très souvent se demandent qu'est-ce que va faire McCourt, il veut nous vendre, il veut pas nous vendre.
Ça c'est autre chose, on parle de la culture ancrée des supporters auprès de leur club.
Oui, mais après Marseille, ils ont envie de savoir où va le club et aujourd'hui ils se posent des questions les mecs quand même.
T'as ça à Marseille quand même, la culture, t'as ça à Rennes, t'as ça à Strasbourg.
On a ça à Rennes, Christian, depuis combien de temps c'est historique à Rennes le football,
c'est historique, enfin d'abord c'est
quand même, ouais.
1971, Coupe de France, 65 Coupe de France, ils ont ramené. Non, ben oui, mais enfin, je veux dire, t'as un vrai
petit
breton depuis deux saisons.
Ah, je savais pas qu'il était
un
trou
quand même.
Au prétexte donc que le club en question n'a
pas
de palmarès,
il y a une identité en plus. Franchement, Rennes est un club qui ne me fait rien, mais il y a une identité à Rennes.
Je suis d'accord. Effectivement, les déboires connus et les mauvais résultats, le fait qu'ils n'ont même pas eu une aventure européenne à se mettre sous la dent, alors que même Toulouse, même Metz ont un petit souvenir dans la tête pour Toulouse, Maradona et pour Metz, Barça 84, mais c'est vrai que Rennes, de ce côté-là, il manquait. L'histoire, d'ailleurs, c'est totalement atypique. L'histoire du riche mécène qui vient dans le club pour continuer à le faire vivre. Je trouve, pour le coup, que l'histoire de Rennes récente a quelque chose d'assez original,
mécène français,
même dans le paysage footballistique français.
Région,
absolument,
Pino,
absolument. Etc. Tu as raison.
1998, un sommet pour la France, une catastrophe pour son football. Écrit Daniel Riolo dans son bouquin. Messieurs, vous pouvez peut-être réagir.
Pour ce que ça a donné ensuite.
Dominique Sévrac.
Ce que ça a donné quoi la formation des entraîneurs.
Voilà. Pour l'idée ensuite.
Je m'en fous, tout ce que je compte, c'est d'être champion du monde, quoi.
Ah, non, mais ça m'intéresse.
La même chose, ça.
La manière ou le résultat.
Si ça entraîne 20 ans de bétonnage en Ligue 1, je m'en fous. T'es champion du monde en 98, quoi. Tu préfères avoir une étoile ou 0 ou 2 ?
Alors, autant je pouvais comprendre la première partie de ta phrase, autant si tu me dis derrière. Parce que. Le titre de 98 donne une formation des entraîneurs et une volonté de jouer d'une certaine façon. Tu peux pas dire que c'est pas regrettable.
Ah bah sans doute.
Donc toi tu veux bien prendre l'étoile en 98 et te taper 20 ans de merde derrière ?
Ah ouais.
Ah, moi je prends la deuxième en 2018.
Là, Dominique, ça va être dur de te suivre.
Là, c'est quand même très compliqué.
Il y a deux ans après, il y a le championnat de champion.
Fait vivre, Dominique. Le championnat, c'est les supporters qui vont au stade tous les jours.
En plus, c'est ce qu'on t'en fait, le foot. C'est pas parce que l'information des entraîneurs, elle est rigide, elle est, on va dire, Aimé Jacquet, c'est ça que tu veux dire. En fait, il a été le modèle. Béton. Alors, bon. Admettons,
les choses ont évolué. En fait, c'est pas tant ça que je dis, Dominique. Je vais faire un résumé très simple parce que ça date d'il y a quelques heures.
Après, on fait circuler la parole.
Dominique, un truc très simple. Cet après-midi, je lis l'interview passionnante dans le dernier SoFoot de German Burgos, celui qui a été l'adjoint de Diego Simeone pendant des années à l'Atlético. Bon, l'Atlético, Simeone, le style de jeu, on est tous d'accord pour, on comprend tous ce que c'est. Le mec défend son point de vue. Il défend son point de vue. Il dit, pour moi, il n'y a que le résultat qui compte, idée avec laquelle je suis en désaccord. Dans la même interview, il dit qu'il admire passionnément Bielsa. Pour moi, c'est ça. C'est l'essence du débat qui, chez nous, n'a pas existé. Parce qu'on s'est rangé d'un côté seulement, sans proposer, sans donner la voix à autre chose dans la formation de nos entraîneurs et dans l'idée même du jeu et du débat. Alors, c'est le fait que Furlan, on s'est toujours foutu de sa gueule.
Ouais.
C'est l'idée que
j'ai Laurent Blanc, qui est un enfant 98 aussi, un enfant d'Aimé Jacquet, et champion de France avec Bordeaux, avec le Paris Saint-Germain, qui a un football très exceptionnel.
Bien. Très bien.
À Paris, j'ai jamais vu Paris jouer. Le PSG Qatar, il a jamais aussi bien joué que sous Laurent Blanc.
Bon, là, on va pas avoir le temps d'entrer là-dedans, mais bon.
Pas qui aimerait.
Marcelo Bielsa, génie ou mauvais génie, alors?
Bah, les deux, il faut accepter en fait. Il faut tout accepter.
Moi en fait, c'est ça qui
moi,
me fatigue.
Moi ce que je défends, c'est le débat.
C'est ça qui me fatigue là-dedans.
Real Madrid.
C'est que il ne pourrait pas effectivement, à mon avis, entraîner un très très grand club européen.
Absolument.
Ce n'est pas possible. Mais le personnage est fascinant. Le personnage est intéressant. Le personnage est parfois un petit peu copié. Un petit peu par les plus grands,
fait réfléchir les autres.
Par les plus grands, en tout cas, il fait réfléchir les autres.
C'est vrai.
Donc c'est intéressant.
Eh bien,
c'est tout. Mais en revanche, moi, ce qui m'a supporté quand il était en France, à l'Olympique de Marseille surtout, c'est que en fait, il fallait être dans une case. Tu étais pour ou tu étais contre.
Non,
et moi, ça m'use.
Ça
ne m'intéresse pas.
Non, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là, Sébastien. C'était plus que on n'avait jamais eu un type comme ça. Ce pourquoi, par exemple, alors là, oui, moi, j'ai eu des emportements à ce moment-là. Ce qui m'agaçait profondément, c'était, et là, tu pourras pas contredire ça, le nombre d'entraîneurs qui le traitaient de guignol.
Oui, mais
qui résumaient sa présence au cul posé sur la glacière. C'était une insulte par rapport au fait que ce mec-là soit justement adoré par des très grands entraîneurs.
En fait, je
et
pense
qu'il
que
proposait
chacun...
un débat en fait, qu'on n'avait jamais eu chez nous.
C'est outrancier, Daniel.
Je pense qu'en fait, que chacun réagit, en fait, aux outrances des autres.
Oui.
Et c'est ça qui tue le débat, après. C'est-à-dire qu'après, toi, par exemple,
quand tu t'élèves contre la secte Benzema, par exemple, est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a qui s'élèvent contre la secte Bielsa? Moi, je te pose la question aussi clairement. La secte Benzema, tu la pourfends, tu ne la supportes pas. Eh bien, il y a une secte aussi Bielsa.
C'est quoi la secte
Benzema ? Je veux dire, si tu émets une opinion contraire à ceux qui encensent Bielsa, je veux dire, tu es mais excommunié.
Pas à mes yeux en tout cas. Puisque moi justement, je trouve passionnant. Moi, je trouve passionnant Diego Simeone, alors que le jeu de son équipe, bon, parfois très très chiant, mais ce qu'il a construit à l'Atlético est dingue. Et je suis comme Bourgois, je me suis retrouvé. Je suis plutôt côté Bielsa et je suis dans l'idée que ce mec-là a dit j'admire Bielsa, mais nous, on fait vraiment autre chose chez nous.
Mais tu vois, moi, je suis pas d'accord pas avec tout ce que tu dis, mais en fait, quel est le problème, en fait
Moi, il y a deux choses qui m'ont choqué.
Oui, mais en France, on n'a pas eu ça.
Mais quoi
On n'a pas eu ça, Dominique. Le débat foot, il n'existait pas chez nous.
Les entraîneurs aiment Bielsa. Il fallait que tous les autres entraîneurs disent que c'était un génie.
En revanche, il fallait pas qu'il lui manque de respect comme ils l'ont fait, qu'il se foute de sa gueule.
Philippe Sanfourche.
Qui donne des noms sur Canal, quand Stéphane Guy commentait un match, il le résumait à un mec qui posait son cul.
C'est pas l'entraîneur.
Roland Courbis. Pourtant, Dieu sait que je l'adore, Roland. Mais je supportais pas la façon dont il parlait de lui. Attends, donne-moi les noms, moi j'ai peur de rien.
Il est plus entraîneur, Roland.
Domenech peut-être, non?
Domenech, la façon dont il parlait et il continue de parler. Et de la façon dont il continue de parler des entraîneurs, et quand ils se foutent de la gueule de Gasperini après que le PSG gagne à l'arraché à la 95e minute contre la
Tarte française,
Giroud peut-être
oui. Tous ces gens-là, Dominique, bon, bah, les balaye pas quand même.
40 ans, quoi, déjà.
Mais oui, mais c'est Philippe lui qui a présidé à la formation des entraîneurs, Dominique, pendant 20 ans. Est-ce que c'est une catastrophe ou pas?
Est-ce que Philippe Sanfourche peut s'exprimer?
Oui ou non?
Philippe Sanfourche,
c'est la pub.
Bon, bah alors voilà.
Alors, c'est la pub. 19h40, et ensuite, Philippe Sanfourche reviendra sur le dossier Bielsa. Moi, il y a deux choses dans le bouquin que j'ai retenu. Bielsa à Marseille rend l'équipe fière, même quand elle perdait. Je sais pas quel supporter tu as rencontré, mais enfin bon.
Tous les supporters de l'OM.
Et pas à tous les supporters de l'OM.
Donc, je veux dire, les mecs. La majorité de supporters de l'OM ont gardé un magnifique souvenir.
le problème, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre.
Et pas 168, là, pardonne-moi, tu vas pas m'en vouloir, mais là,
mais je t'en voudrais de rien du tout.
Chef d'œuvre de la
mauvaise foi. Une heure et demie de promo, je vais pas t'en vouloir.
Chef d'œuvre de la mauvaise foi quand tu écris que c'est Bielsa qui rendait meilleures les équipes de Ligue 1 qui battaient l'Olympique de Marseille.
Oui, c'est vrai.
C'est la mauvaise foi.
Ah non, non, non. Moi, je lisais beaucoup d'interviews d'entraîneurs qui affrontaient Marseille, qui avaient battu l'OM, notamment dans leur mauvaise période en février de 2015. Donc, les mecs, à la fin, semblaient en extase d'avoir réussi à contrer Bielsa.
On n'est pas obligé de les croire. 19h40, la publicité. Bon.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Les 20 dernières minutes d'On refait le match en compagnie de Daniel Riolo, Sébastien Tarago, Dominique Sévrac, Philippe Sanfourche, 20h, 23h ensuite, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi pour notamment et pas seulement l'intégralité de Rennes-Monaco. Philippe Sanfourche. Philippe Sanfourche.
Parce que moi je suis d'accord que la place de l'entraîneur, la place du jeu, la place de la proposition globale sportive est pas suffisante en France. Ok. Maintenant, sur Bielsa, et ça a stigmatisé le problème pendant qu'il y a eu cette polémique autour de Bielsa. Ça concerne aussi Guardiola, je trouve. C'est qu'on est rentré dans une époque où maintenant ces mecs-là sont prisonniers de leur personnage. Ça devient des monstres qui sont prisonniers. Genre Guardiola, ce qu'il nous fait contre Lyon, je pense qu'à un moment donné, il se prend trop la tête. Il y a une équipe qui est supérieure. Alors je pense qu'il sait aussi que physiquement, il va se faire rentrer dans la tronche, donc il cherche autre chose. Ok, mais il y a un moment, Bielsa, il y a aussi le jeu, c'est 2 fois 45 minutes, et tu t'engages dans un championnat qui fait 38 journées.
Mais tu as raison.
Si à la fin, t'as fait rêver les mecs sur des périodes, des trucs, mais qu'à chaque fois, je me souviens des matchs contre le PSG pendant 60 minutes, tu te dis putain, ils sont 13 sur le terrain, ils sont pas 11, c'est pas possible. Sauf que les dernières 30 minutes, tu fous en l'air tout ce que t'as mis en place. Et au final, tu termines 4e à égalité avec Saint-Etienne qui joue avec Monet Paquet, avec Toisel et Erding.
Moi, ce que je veux juste, c'est que ça existe, qu'il y ait des mecs, tu vois, qui proposent un débat parce que je trouve que Bielsa, et donc on va dire son disciple Guardiola, propose un débat intellectuel sur le foot, sur le résultat, comme on disait tout à l'heure avec Dominique. Ça permet d'échanger là-dessus. C'est est-ce que le résultat est plus important, est-ce que la manière doit être mise en avant. Tu vois, ces mecs-là, exactement comme Cruyff le faisait, c'est les intellectuels du foot, et qu'ils s'opposent à ceux, on va dire, qui ont une vision peut-être plus pragmatique. Moi, je trouve que c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est génial. Mais moi, il y a 2 ans, quand je dis que l'équipe de France, c'est peut-être le champion du monde le plus moche, on me dit, c'est pas possible à dire parce qu'on doit être forcément content parce que la France gagne la Coupe du Monde. Bah, ok, mais très bien, mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'en débattre? C'est juste ça que je propose. Après, là où tu as raison, c'est que ça provoque parfois des sectes. Bielsa provoque parfois des mecs qui sont derrière, un peu comme Guardiola aussi, parce qu'en fait, ce sont des idéologues. Quoi. Ils ont des idées arrêtées, ils veulent jamais démordre de leurs idées, et parfois ils vont dans le mur avec leurs idées.
Mais là, moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous dites là. Mais sur Guardiola, là récemment, pardonnez-moi, je suis en désaccord total. C'est-à-dire qu'au contraire, je trouve que Guardiola s'est renié.
Oui,
il s'est renié, il a voulu s'adapter à ce qu'il supposait être tactique qu'il fallait en Ligue des Champions pour la gagner enfin avec autre chose que le Barça de Messi. Et je trouve qu'il s'est renié. Et à la rigueur, je le reproche presque. Parce que moi, la seule chose que je déteste chez les entraîneurs, c'est l'improvisation. Alors là, à un moment, t'as rien travaillé, puis tu fais n'importe quoi. Parce que tu te dis, allez hop, ça va marcher. Non.
Il s'est renié dans ses préceptes de jeu. Il s'est renié. Mais il est prisonnier du fait de penser que la solution ne passera que par lui. À un moment donné, c'était joueur aussi.
C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Il s'est embrouillé la tête tout seul.
Voilà.
Justement, avec les deux réflexions. Que les deux réflexions que vous avez eues là à l'instant, je pense que lui, il les a eues dans la tête et il s'est embrouillé, il a déconnecté, et c'est vrai qu'il s'est complètement raté.
C'est vrai.
Il y a un truc qui est il propose toujours une réflexion, on est d'accord.
Qui est très fréquent chez les idéologues, hein, c'est pas un gros mot idéologue. Hein.
Non.
C'est de dire on peut pas en débattre, alors qu'on ne fait que ça. C'est-à-dire que Sébastien Tarago, il a passé sa Coupe du Monde, 2018, à dire que le jeu de l'équipe de France ne lui plaisait pas.
Bah, j'étais d'accord avec lui.
Bah oui, donc tu viens de dire, on pouvait pas le dire. Je disais que c'était le pire champion du monde, là, on pouvait pas le dire parce que la France avait gagné, on devait être content.
Bah, non, mais on peut pas le dire, c'est parce que j'imagine qu'il s'est fait rentrer dans la gueule comme moi je me suis fait rentrer dans la gueule. Parce que tu te heurtes à ce moment-là à un phénomène qui est particulier quand tu parles de l'équipe de France, c'est qu'on a.
Le patriotisme.
D'un coup, tu passes de 2 millions de gens qui suivent le foot à 15 millions. Lyon. Donc tous ces débats-là n'intéressent pas tous ces gens qui sont juste là.
Mais ça, Arago va se défendre. Non, non, bien sûr, mais ça, c'est une certitude. On en prend globalement plein la tête quand on défend cette idée-là. Mais peu importe, on peut quand même l'exprimer. Je suis d'accord avec Dominique, on peut l'exprimer. Toi, tu es dans un grand média. Moi aussi, j'étais invité aussi ici pendant la Coupe du Monde 2018. J'ai pu largement exprimer mes idées. Donc, je trouve qu'on en débat.
Mais moi, vous représentez
juste. Arrêtez de regarder les réseaux sociaux qui vous porteraient mieux.
Mais oui, je suis d'accord. Mais tu les regardes beaucoup. Mais pour prolonger ta question, c'était le beau jeu ou les résultats. Mais en fait, moi, j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les émotions.
Ben oui,
et ce sont les émotions qui passent soit par le jeu, soit par les hommes. Parfois, je prends plus de pendant la Coupe du Monde 2018, j'ai pris plus de plaisir à observer une émotion d'un joueur après le match que pendant le match. Bah, alors ça, bon, bah, c'était déjà alors, ça.
France Argentine, le match de Mbappé te suscite pas d'émotion.
Si, mais quand même. Je te dis.
Je vais plus loin. Tu me donnes un match. Réflexion. Tu préfères le titre mondial 1998 ou le France-Brésil 1986?
Ah non, mais alors France-Brésil 86. Je suis né en 77. J'ai 9 ans. C'est le premier grand souvenir de ma vie d'enfant qui aimait le football. Ça et Maradona. Bon, je te réponds 86.
J'ai 16 ans et je prends France-Brésil.
Et tu prends France-Brésil. Mais tu préfères que 82 Séville, France-Allemagne, perdu, au tir au but, je t'y dis que, tout ça, ou 98-2018. Tu préfères quoi, toi?
Mais c'est, en fait, ces choses-là sont
superbes. Hein.
Ces choses-là, Dominique, c'est très personnel. Je sais pas si tu peux.
Si tu perds la finale, tu descends les Champs-Élysées.
Tu sais ce qui est curieux, c'est que au fond, en termes juste d'émotion, je sais pas si tu ressens pas plus de choses entre t'es heureux, t'as la haine, en termes d'émotion, hein, dont tu te souviens 20 ans après. Je me demande si c'est pas presque équivalent.
Mais tout cela est
personnel, et finalement, en plus c'est des trucs un peu perso. Ouais, et je sais pas si au final, le fait de soulever la coupe en sport pour ceux qui regardent comme nous. D'un point de vue émotion, je sais pas ce qu'il emporte sur l'autre avec le temps.
Allez,
avec
le temps. Tout cela est perso, effectivement.
98 est beau parce qu'il y a eu France-Bulgarie t'as tellement eu mal que du coup,
c'est
après,
souvent une histoire.
C'est un pansement c'est sur une blessure.
Exactement. Tout cela est personnel. Les émotions, ça se discute pas. Les goûts et les couleurs. Et simplement,
faut que
ça
soit
un peu dans la bienveillance.
On parlait de manière sérieuse.
Mais la Ligue 2, Serge Peuillot, les matchs sont terminés pour les premières périodes.
Ouais, c'est la mi-temps. On a marqué sur seulement 2 stades. Grenoble mène devant Ajaccio 1-0, un but de Benet. Rodez mène à Sochaux 2-0, 2 buts de Boissier. Sur tous les autres matchs, 0-0, Le Havre-Niort, Pau-Guingamp, Caen-Chambly, Paris FC Nancy, Dunkerque Valenciennes et Châteauroux-Amiens. Cet après-midi, Clermont et Toulouse ont fait match nul, un but partout.
Merci Serge, le retour de Serge Peuillot dans RTL Foot après 20h. Les réseaux sociaux, pour conclure sur le bouquin de Daniel Riolo, Cher football français. Belle promo quand même, hein, Daniel, mais c'était intéressant. Mais on a encore 11 minutes.
On va payer un péril, hein.
On a encore
avec tous les bouquins qu'il va vendre.
Les messages.
14,99€.
Bon, Baptiste Durieux.
Si tu veux mieux qu'un péril, on peut discuter.
Baptiste Durieux, on y va.
Ouais, il n'y a pas que Guardiola qui est le disciple de Bielsa. Puisque Antoine, notre auditeur, nous sort deux belles citations que vous connaissez peut-être, messieurs, je vais vous les lire. On ne regarde pas pourquoi tu gagnes, on t'adule pour avoir gagné et non parce que tu méritais de gagner. En ayant vu comment tu as construit ta victoire, je vois cet étendard qu'est la victoire comme une imposture, nous dit Antoine. Et puis deuxième citation assez intéressante, les plus pauvres n'ont que le foot. Alors moi j'ai du mal à accepter que tout ce qu'on va leur offrir, c'est le résultat. Si on ne leur offre pas le foot comme un élément esthétique, on empire leur situation car la valorisation de l'esthétique est une condition de l'humain, des citations de Marcelo Bielsa, évidemment.
Et on fera une émission peut-être sur l'esthétisme et le football. 19h50, la pub. Faut qu'on parle un petit peu de PSG Marseille. Il y a eu des sanctions qui sont tombées. Et puis il y a la fameuse séance de tir au but, n'est-ce pas? Faut être solide, faut avoir du mental.
J'ai toujours combattu l'idée de ceux qui disaient que c'est une loterie.
Alors attention, je vais t'expliquer.
C'est une énormité, ça.
Le concept, mais après tout ça.
RTL, on refait
le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Allez, les dernières minutes d'on refait le match avec Daniel Riolo, Sébastien Tarrago, Dominique Sévrac, Philippe Sanfour. Je voulais qu'on parle un peu de l'actualité cette semaine. C'est essentiellement les suites de Paris Saint-Germain-Marseille avec les sanctions. J'avais cette question lancée effectivement sur les réseaux sociaux. À qui la honte? Aux Parisiens, Neymar, aux Marseillais, Payet qui avait chambré, aux médias qui ont retrouvé les bons vieux classicaux, terme que j'exècre d'antan, ils ont eu ce qu'ils voulaient,
Alvaro, on ne sait pas, il faut attendre le résultat des images. Alors je rappelle, Kurzawa a pris 6 matchs de suspension, Amavi 3 matchs, Neymar 2+1/6, Paradas 2+1/6, et maintenant on va visionner les images pour savoir s'il y a eu un problème de racisme entre Alvaro et
Neymar.
Et
un autre crachat.
À qui la honte?
Crachat de
Di Maria.
Jeudi prochain, je pense que Di Maria il va être suspendu.
À qui la honte, Philippe Sanfourche?
Il était aussi bon contre Metz, c'est parce qu'il a senti qu'il allait trop revoir le terrain pendant quelques temps.
À qui la honte, Philippe Sanfourche?
La honte, je trouve que pour moi le mot est un petit peu fort. C'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire de 3 minutes surtout qui dégénère totalement.
C'est plus que ça. Pas 3 minutes.
C'est un match qui était musclé, ok, mais on le savait, on le sentait de toute façon. Les provocations de Payet avaient été bien reçues, bien réceptionnées dans le vestiaire parisien, et c'était évident que de toute façon il voulait se le farcir. Après, la question est de savoir si justement quand tu revendiques comme Nasser l'a fait dès le lendemain que t'es désormais dans la cour des grands parce que t'as fait une finale de Ligue des Champions. Est-ce que ton ambition première, ça doit être d'essayer de faire les chevilles de Dimitri Payet? Je suis pas sûr. Ils se sont un peu trompés de match. Ils sont totalement trompés de match.
Ils l'ont perdu.
Et à la fin, ça se retourne contre eux parce qu'ils perdent le match, ils perdent des joueurs et ils perdent beaucoup en image et en crédibilité. Parce que l'image, c'est quand même que... À la fin, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, ça remonte tranquillement jusqu'à Doha. Ils regardent pas 50 000 matchs par saison, mais celui-là, ils le regardent. Et celui-là, il plaît pas. Parce que les valeurs qui doivent être véhiculées par le Paris Saint-Germain, c'est tout sauf celle-là.
Je sais pas non plus, mais c'est aussi le problème d'un club qui multiplie les jérémiades, qui pleure, qui chouine, qui chiale, qui depuis quelques semaines, et voire quelques mois, voire quelques années, s'estime mal arbitré, pas assez pris en considération, que son importance, sa puissance financière, économique, sa place centrale dans le football français, en termes de droits télé, de titres, de palmarès, de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, de titres de champion, sont pas assez pris en considération, visiblement. Et donc, je trouve qu'à la fin, ça déteint sur les joueurs et que ça finit en pugilat.
Sébastien.
Non, mais moi, je dois admettre, que jusqu'à là, 94e, 95e minute, j'ai pris du plaisir à ce match. Parce que je prends du plaisir dans différentes formes de match et de football. Je préfère le jeu, je préfère, oui, mais j'ai aimé ce qui s'est passé, cette espèce d'affrontement qui sert.
Pas à chaque fois, mais certes, de temps en temps, c'est pas mal.
Au-delà de la limite parfois, mais j'ai aimé que Payet ait le courage d'être sur le terrain jusqu'à ce qu'il sorte, je crois, vers la 65e, 70e minute, sans répondre aux coups qu'il prenait ou quasiment pas. Moi, j'ai préféré ce match-là, au 4-0, au 5-0. En tout cas, à tous les matchs où on connaissait déjà le résultat avant.
Daniel, pas trop long, s'il te plaît.
Bah, ceux qui ont pris le match à l'envers sont les Parisiens, ceux qui ont pourri le match ce sont les Parisiens, et ceux qui ont perdu ce sont les Parisiens, et ils l'ont bien cherché, même si sur l'ensemble du match, au niveau du jeu, ils étaient quand même au-dessus, mais ils ont complètement raté leur partie dimanche soir.
Bon, les tirs au but. Alors les tirs au but, c'est des sujets qu'on n'évoque pas dans Fait le match, ça vaut pas 10 minutes ou un quart d'heure de débat, mais c'est pour purger d'une certaine façon l'actualité. Alors il faut être solide parce qu'il faut prendre tout de suite le micro, mais au coup de sifflet. Alors t'en as qui se cachent, qui se planquent, les tirs au but, ça, c'est, on connaît ça. T'en as qui ont les guibolles qui tremblent, et puis t'en as qui sont solides, qui ont du mental et qui prennent tout de suite.
Le problème, c'est que ça dépend des invités, parce que ça peut vite être n'importe quoi. Prend la parole,
non.
Attention.
Et vous n'êtes pas courts, mais faut démarrer au coup de sifflet. Justement, le PSG, Leonardo Turel, pour combien de temps encore?
Un an maximum.
C'est vrai?
Un an maximum.
Ça, oui.
Ça, il se rapporte.
Juin maximum, oui. Mais est-ce que Leonardo ne va pas finir par être en danger?
Des champions. Si Turel gagne la Ligue des Champions, il sera difficilement virable.
D'accord. Demain, c'est PSG-Nice.
Nice PSG à 13h.
À huis clos.
Mbappé va peut-être jouer. On s'arrange pas un peu avec
le coronavirus,
le contrôle sanitaire,
les quarantaines, Non, parce que je pense qu'elles ont été réduites à 7 jours désormais officiellement.
Il est dans les clous là, asymptomatique.
À 24h près quand même.
Oui, à 24h près, oui.
Les règles du coronavirus, si quelqu'un comprend quoi que ce soit.
Il est bon, c'est vrai, sur les tirs au but.
Dites-moi.
Il est très bon.
Cette semaine, Lyon et Marseille ont joué. Est-ce qu'on n'a pas déjà atteint la cote d'alerte?
Oui. Oui, surtout pour ce qui est de Lyon, qui semble redémarrer exactement comme l'année dernière, mais c'est pas étonnant puisque l'entraîneur n'a pas changé. Son bilan est absolument catastrophique entre nombre de matchs joués en Ligue 1 et nombre de points pris. Et pour ce qui est de l'OM, les victoires contre le PSG, c'était un leurre. Celle contre Brest l'était aussi. Pour ceux qui ont vu le match, au niveau du jeu, c'était très très pauvre. Et j'ai pas été très étonné de les voir s'effondrer
en
comme
revanche,
ça.
En revanche, André Villas-Boas, comme il a une bonne com et qu'il a l'air sympathique, il peut faire tout et n'importe quoi, ça gêne personne.
Si, ça gêne.
Et surtout, il peut bétonner. Alors là, mais ça pose aucun problème. Lui, ça va être le nouveau Bielsa.
Pour une Panenka.
On en reparlera peut-être la semaine prochaine.
La com.
Pour une Panenka, celle-ci, elle a été un peu déstabilisante. Reims en Coupe d'Europe, ça vous interpelle?
Ça vous interpelle?
Ouais.
Alors, je
ça vous fait vibrer, ça vous...
Non.
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 Non. Non, mais je serais ravi si bon.
Il faut attendre encore un ou deux matchs. Là, franchement, j'ai le match contre le Servette. On n'avait pas le sentiment qu'on regardait un match de Coupe d'Europe.
Bon. Non, c'est clair. Mais bon, si Reims, ils sont là, c'est parce que les autres n'ont pas fait le taf. Et comme Reims fait partie des clubs qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui le dépensent plutôt bien, et ben, ils arrivent à faire ce que les autres devraient faire.
Et que le championnat a été arrêté. Ça fait beaucoup de raisons.
Aussi, mais...
Si, quand même.
Oui, bah, évidemment.
Deux pailles à Barcelone. Fantasme ou réalité?
Ah non, la réalité, c'est que l'entraîneur du FC Barcelone veut Memphis Depay, ça c'est une certitude absolue.
Monsieur Coman.
Pardon?
Monsieur Coman.
Oui, oui, en effet, on peut s'interroger, après c'est autre chose, mais il a adoré Depay avec la sélection néerlandaise, et je peux le comprendre, parce que pour le coup, Depay était un joueur de très haut niveau en sélection, ce qui n'est pas le cas en club.
Question. Moi je me fous d'où va aller Depay, Memphis, c'est surtout, il faut qu'il aille très vite et que Lyon pense plutôt à comment construire son effectif après son départ, parce que là la situation et le statu quo avec Memphis qui se traîne sur le terrain, c'est pas bon du tout pour l'OL.
Dernier tir au but, l'AS Saint-Etienne leader du championnat, merci Puel.
Bien sûr, Claude Puel, c'est un entraîneur magnifique, sous-coté en France, dont personne ne parle, son travail à Leicester. Non, mais on n'en parle pas souvent. Il n'y a pas des pages entières, il n'y a pas une ligne de l'équipe sur Claude Puel.
Oh, je
le premier quart d'heure de Saint-Etienne contre l'OM, justement, puisqu'il en a été beaucoup question ce soir,
Nice.
J'avais l'impression de voir une équipe dirigée par Bielsa.
La seule chose, c'est qu'ils auraient pu faire à peu près la même chose en ayant un peu plus de classe quand même.
Et le match, c'est terminé, messieurs, 19h59. Merci Daniel.
Merci
Riello.
Beaucoup Christian, merci à vous tous de m'avoir invité. Merci beaucoup.
Cher football français.
On y était pour rien, nous.
Aux éditions.
Merci beaucoup.
Nous on voulait.
Non, vous n'oubliez pas. Non, je retire, vous n'êtes pas gentil.
Aux éditions.
Merci Christian, tout ça. Philippe aussi, je t'ai dit merci.
Et on n'a même pas parlé de la Ligue à moitié fermée, des champions. On n'a même pas parlé du VAR. On n'a même pas.
Et de toutes mes anecdotes personnelles.
Ah bah oui, non.
Je reviendrai.
On n'est pas là pour parler que de toi. Mais des thèmes que tu évoques dans le bouquin, Daniel.
Merci Christian, encore une fois. Merci beaucoup.
La publicité et ensuite RTL Foot, 20h-23h. Silvestro, Castaldi, Xavier Domergue.